Ça vous tenterait-tu de prendre un verre avec Claude Poirier, puis de jaser avec, tu sais, genre au restaurant ou d'un bar, là, toutes les affaires dans sa vie, ses anecdotes, etc. Hey, lui, là, il y en a du vécu, là.
Ben oui.
OK? Tu sais, là, pas en ongle, là. Pas les... Tu sais, là, tu prends un verre avec, je nomme Claude Poirier. Ça peut être n'importe qui, là. Tiens, je vous la pose la question. Avec qui vous aimeriez prendre un verre? Tu sais, il posait là, toutes sortes de questions sur sa vie, ses opinions. Eh bien, on commence aujourd'hui, dans Bouchard en parle, un nouveau segment. Est-ce que le thème est prêt? On a même un thème. Je pense que ça s'appelle « Prendre un verre avec ». On va vous demander à vous, les auditeurs, hein, de nous suggérer des noms. On en a déjà, on commence à matin. Là. Puis vous avez deviné un peu avec qui? On commence avec Claude Poirier. Mais on a toute une liste. Alors, textez-nous à 25226. Avec qui vous aimeriez prendre un verre?
FM 93. Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
C'est hot!
Alors, on commence avec bon. Elisabeth. Oui. T'as pris un verre avec Claude Poirier. Pourquoi on fait ça? Je veux juste en parler un petit peu là, pendant 2-3 minutes. D'abord, c'est pas nouveau. Ça existe ailleurs. Radio-Canada, TVA. Oui. Je connais le concept. Il existe depuis longtemps. On l'a jamais fait ici, dans notre émission. Je peux inviter Claude Poirier ici un matin, à la radio, faire une entrevue avec. Ou d'autres noms. On a déjà une bonne liste, on en a déjà de canés, là, de fait, là. Mais ça va donner, je vais me forcer, je vais essayer de faire la meilleure entrevue possible. Mais c'est un studio de radio. La personne est préparée, il y a un format, il y a les pauses, il y a l'heure, le réalisateur. Alors, ça donne ce que ça donne. J'espère qu'en général, on fait bien ça. Mais là, c'est autre chose. On s'en va d'un restaurant. On s'en va d'un bar, une taverne. C'est pas nécessairement moi. Ça peut être Elisabeth, Jean-Simon, Pascal, Vez. Ils vont s'asseoir avec quelqu'un de connu et là, ils jasent. Il n'y a pas de réalisateur, il n'y a même pas de micro. On installe le sel de façon discrète. Tu sais, on mange, on prend un verre pour vrai, là, et on jase. À date, on l'a fait, là. Je suis content des résultats. Alors, vous allez embarquer là-dedans avec nous à matin, là. Vous êtes dans l'auto, pogné à quelque part où ça va bien. C'est comme si on allait tous prendre un verre avec Claude Poirier. C'est Elisabeth oui. qui a eu la chance de le faire. Pourquoi lui? Parce qu'il a toute une carrière et ça fait un bout qu'on ne l'a pas entendu. En passant, nommez-nous pas des gens à qui on parle à tous les semaines dans tous les médias. Ça se peut qu'on dise, ben là, ça prend des gens qui soit sont un peu disparus de la circulation ou ils ont des postes très importants puis ils parlent pas souvent. Puis là, c'est à nous, c'est notre défi de les convaincre de venir s'asseoir à l'atelier, à l'Ophélia. On s'en va d'un resto, on s'assoit, puis là, on jase pendant une heure, pendant deux heures. Et là, on vous présente ce matin, évidemment, un résumé de la conversation, comme si on prenait un verre avec. Oui. Alors, 25-226, je pense que ça commence à rentrer déjà.
Il y a plein de suggestions.
Massivement.
Oui.
Avec qui vous aimeriez qu'on aille jaser? Tu sais, jaser, c'est pas comme interviewer.
Non,
hein?
C'est pas pareil.
Il y a comme le format, souvent, c'est plus propice aux confidences, aux aveux. Peut-être qu'on va apprendre des choses. Regarde, je n'en dis pas plus. Elisabeth, on s'en va prendre un verre avec Claude Poirier.
Oui, vous allez voir que ça tire dans tous les sens, hein, parce que dans une discussion autour d'un verre, tu parles pas d'un seul sujet, là.
T'en plais ça.
Alors, on va commencer avec le début de sa carrière. On sait que Claude Poirier a travaillé avec la police, a travaillé dans le crime, toute sa vie. En quoi c'était différent à l'époque les contacts que Claude Poirier pouvait avoir ou qu'un journaliste pouvait avoir avec les policiers, contrairement à maintenant?
On avait l'inventaire, on n'avait pas des relations publiques. Des gens, ça n'existait pas. Mais pas que de valise, on n'avait pas. À cette époque-là, je me fiais un peu ce que la police me disait, mais j'avais des contacts personnels avec des policiers. Ça a fonctionné pendant quelques années. J'ai jamais eu de problème avec les enquêteurs. Quand est arrivée l'installation des policiers au niveau des relations publiques, là, ils ont commencé à vouloir contrôler l'information. Mes meilleurs scoops de toute ma carrière, c'est les gens qui m'écoutaient.
Il y a raison dans tellement d'autres domaines, au gouvernement, partout. Ouais. Ils appellent quoi? Comment?
Les
porteux de valises. Sont-tu tamant? Alors, avant, ils disaient qu'ils avaient accès plus facilement aux informations.
Et depuis, les relations publiques, là, c'est terminé. Ouais. On contrôle l'information.
Dans le sport, c'est le même aussi.
Partout.
Claude Poirier, vous savez qu'il a aidé à régler de nombreux dossiers judiciaires sur des prises d'otages, entre autres. On l'appelait, on avait besoin de son aide pour négocier les prises d'otages. Alors, il a été appelé souvent sur les lieux d'une enquête policière. Est-ce que les policiers étaient contents d'avoir l'aide de Claude Poirier ou quand on le voyait arriver, on n'était pas trop content?
Ils n'auraient pas voir des gens. Pas la police qui nous faisait demander les 59 prises d'otages puis cas d'enlèvement. Ça a toujours été de l'autre côté, à part trois fois. À Laval, il était dans Marne. Le père de Stéphanie Trudeau, matricule 728, Pierre Trudeau, le directeur de la police à Saint-Hubert, m'a appelé un matin, il y avait une prise d'otage, puis il dit là, où faut que tu viennes, parce qu'il dit on est en train de prendre le contrôle. Fait que j'ai été trois fois.
Trois fois seulement, les policiers lui ont demandé de venir. Toutes les autres fois, c'était les criminels qui l'appelaient. Les policiers n'étaient pas contents, eux autres. Ils voulaient régler ça eux-mêmes, là.
Moi, j'ai toujours pensé qu'ils étaient contents de voir arriver Poirier.
Pas du tout.
Non.
C'est ça que j'ai appris, moi aussi. Je pense qu'ils n'étaient pas contents.
Ben, toujours... Ça faisait passer plus pour des incompétents.
Oui, parce que c'est
parce
lui
que
c'est qui
pas, c'est pas eux autres qui réglaient le problème. C'est un outsider.
Et là, vous allez entendre que Claude Poirier est très sévère envers les policiers. C'est quoi la relation qu'il a eue avec les policiers pendant toutes ces années-là? Vous allez l'entendre revenir sur un cas qui est un des faits saillants de sa carrière. C'est l'enlèvement de Charles Marion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 1977. Ouais. Charles Marion, c'est un gérant de Caisse Desjardins qui a été kidnappé pour avoir une rançon.
Ça
a été à Sherbrooke. Ça a été la plus longue histoire de kidnapping du Québec à ce jour.
Ah,
82 jours de captivité pour Charles Marion dans une cache insalubre, dégueulasse. Il s'est suicidé plusieurs années plus tard, Charles Marion, parce qu'on l'a souvent accusé d'être l'auteur de son propre enlèvement. Il y a eu plusieurs rumeurs à son sujet après. Ça a détruit sa famille au complet et il a fini par se suicider, malheureusement. Ça, c'est un des faits saillants de la carrière de Claude Poirier. C'est là qu'il y a une confiance qui a été brisée entre les policiers et lui-même, parce qu'il avait été mandaté avec son collègue, son complice, pour aller porter la rançon au ravisseur. Donc, il est parti avec son collègue avec deux valises remplies d'argent. Mais à son insu, les policiers, avant qu'ils partent, ont remplacé l'argent par du carton. Alors là, ils sont arrivés devant les ravisseurs armés. Ils ont ouvert les valises et c'était plus l'argent qui était dedans.
Ils ont envoyé Poirier au BAT carrément, payer la rançon aux ravisseurs avec du faux cash, mais il aurait pu le tuer.
Ben, il aurait pu le tuer, certainement. Puis même que Poirier s'est fait dire par l'un des ravisseurs des années plus tard, Claude, si ça n'avait pas été toi, parce que je savais que tu étais une bonne personne, c'était fini. Alors ça, ça a été...
Et les policiers n'ont jamais dit que c'était du faux cash.
Non, pas du tout. Ils l'ont changé à leur insu tout de suite avant de partir. Alors là, vous allez l'entendre parler de sa relation avec les policiers. Puis qu'est-ce qu'il pense de la relation des journalistes d'aujourd'hui avec les policiers?
Ma relation, quand j'ai commencé mon métier, je prenais 80% de la police ménagée. Jusqu'à temps que je me fasse baiser par la police. J'ai vécu des moments très difficiles dans des dossiers, dont l'affaire Charles Marion, qui ont mis ma vie en danger, celle de mon collègue, M. Normand Maltais. Aujourd'hui, ce que je reproche, c'est que ce soit bureau d'enquête, il y a certaines émissions. On couche avec la police, puis on fait affaire avec des policiers qui sont frustrés, puis qui laissent couler de la fausse d'information. Alors moi, j'en manque pas là-dedans. J'ai déjà dit à tout le monde en parle, ça va choquer bien du monde. J'ai plus confiance au milieu criminel qu'au milieu de la police.
Oui, c'est vrai.
Que c'est tous des policiers frustrés, puis savent à qui ils peuvent donner. Quand la police te donne de quoi, à sa terre, que l'ascenseur revienne. Alors regarde tout ce qui s'est passé. J'ai rien, mon contre les journalistes qui font des dossiers, là, c'est parfait. Sauf que souvent, c'est à cause de la frustration. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, on devient les servantes messes de décors policiers. J'en vais pas dedans.
Il est assez sévère.
Il y a un danger. Si le policier mène son enquête, ça marche pas. Il n'est pas capable d'arrêter la personne. Dans certains cas, ils ont tendance à couler de l'info. Mais ils font ça pour un but, là. Soit qu'ils veulent provoquer les suspects, ils veulent arriver de quoi.
Ouais.
Tu sais, il faut faire attention. Et dans le métier, pour avoir déjà été sur le beat des faits divers un peu, il y a des journalistes qui ont cette réputation-là. On sait que toutes leurs scoops lui viennent de la police.
Ouais, c'est ça. Puis lui, ce qu'il dit, c'est ça vient jamais sans un retour d'ascenseur. Il dit, si vous êtes journaliste puis la police vous donne une information, c'est parce qu'elle attend quelque chose en retour. Il dit, moi, j'ai jamais voulu embarquer là-dedans. Je dois rien à personne. On va parler des prises d'otages un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de Claude Poirier depuis un petit bout, mais je sais pas si vous vous souvenez, en novembre dernier, ici à Québec, il y a un homme barricadé qui a fait appel à Claude Poirier.
Ben oui, encore.
Vous en souvenez, ça avait fait les médias, absolument, les manchettes. Alors, on est revenu un petit peu sur cette prise d'otage-là qui a eu lieu ici à Québec, puis ça y arrive-tu encore aujourd'hui, vraiment, en 2018-2019, de recevoir ce genre d'appel-là? Puis comment on s'y prend pour avoir un bon contact avec une personne comme ça?
J'étais dans l'Institut de cardiologie. Je subissais des tests. Deux, trois fois, le téléphone a sonné. Hey, ils disent, je suis pogné dans chez nous, dans la maison. Les policiers sont à l'autre bord de la porte. Ils veulent que je sorte. Ils vont m'arrêter. Je veux rien savoir. J'ai négocié ça, moi, par téléphone. Ils s'y sont rendus aux policiers. Non, ça m'arrive des fois. Les crackpots sont paniqués. Puis là, ils pensent à ça. Bon, okay. Quelqu'un va appeler, puis il va dire, mon frère est pogné dans telle place. Puis j'ai appelé Claude, puis essayer de le convaincre. Puis ça arrive souvent. Quand j'ai négocié une prise d'otage, ça brasse. Puis là, les gars commencent à crier après moi, commencent à être... Écoutez bien, les gars, on n'a pas été cochons ensemble. Vous êtes dans marre, vous m'avez appelé, on va se respecter mutuellement. La vie des otages est importante, votre vie est importante. Mais on va faire ce que moi je décide. Comme disait Paul Arcand dans un documentaire, Poirier, je joue pas sur le quatrième trio, je suis sur le premier trio.
Fait qu'il dit, c'est moi qui décide. Vous m'avez appelé, vous êtes dans marre, écoutez-moi.
Mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse un
c'est
peu.
Ça,
il installe une forme d'autorité. Si les gens réfèrent à lui, c'est parce qu'il les respecte, etc. Fait qu'il profite de ça pour dire, regarde, fais attention à la vie des otages, priorité, puis tout. Il mène un peu.
Oui. On va parler encore d'une anecdote de prise d'otage. Parce qu'il faut savoir qu'il fut une époque où les policiers payaient pour les prises d'otages. On donnait des rançons. Maintenant, ça change un petit peu.
On paye moins.
On paye moins un petit peu. Mais il fut une époque où on payait. Et à un moment donné, il raconte une fois où, dans le cadre d'un enlèvement, il devait aller porter une rançon. Il était mandaté pour aller porter une valise dans un confessionnal, dans une église. C'était le lieu qui avait été choisi pour ça. Puis écoutez bien ce qui est arrivé.
La première fois, moi, qu'ils ont payé, c'est que j'étais porté une valise dans un confessionnal, à l'église. Et les gars m'avaient appelé, puis 50 000 ou 60 000 d'une valise. Alors moi, j'étais rentré dans le confessionnal. Je suis rentré dans l'église, c'est Alphonse Duville, Sainte-Crémazie. Elle dit confessionnal numéro 3. Je suis rentré dans le confessionnal 3. Puis quand tu rentres dans le confessionnal 3, tu fermes la porte à lumière, ça vient. Je me suis accroché les pieds d'une valise qui était identique à la mienne. C'était marqué, prends la valise, mets la valise que tu as, avec l'argent là, puis sors avec l'autre valise. Et entre-temps, mon père, je voudrais me confesser. Je suis une petite vieille. Je dis, madame, allez-vous-en de là, ça concerne un vrai d'enlèvement. Oh, j'ai jamais la bonne femme sortie du confessionnel.
La lumière s'est allumée, fait que c'est comme si le confessionnal était disponible pour aller se confesser. Puis un petit
mon
talent.
Père, tu veux me
confesser? Il dit une petite vieille qui arrive, toi.
Ça arrive plus, ça, mais c'est une autre époque. Oui. Hein, où il fallait que tu ailles verser une rançon aux gens qui avaient fait le kidnapping.
Ben, il payait à l'époque.
Il y avait un gros montant.
Oui.
À l'époque, là, il allait verser 50 000.
Oui.
Mais ça a été une erreur. Pourquoi on ne le fait plus? Parce que plus les policiers payaient, plus ça encourageait les gens à faire des kidnappings. Ben oui.
C'est vrai, effectivement.
T'as pas le choix, à un moment donné, de dire, comme avec les terroristes, regarde, c'est non, on ne négocie pas. Mais autrefois, ils négociaient.
C'est vrai. On parlait du crime organisé maintenant. Je sais que tu vois, mais ça, là, vous allez voir, il parle de Vito Rizzuto. Il parle de lui comme il était le négociateur. C'est ce qu'il dit. Quand il y avait de la merde un petit peu à Montréal, c'était Vito Rizzuto qui négociait avec tous les corps du crime organisé.
C'est ce que j'ai toujours dit. Je sais que ça passe pas, mais avoir un arbitre, avoir un parrain, un boss dans ce milieu-là, c'est bon.
Ben, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, premièrement, est-ce que vous avez encore des contacts avec le crime organisé? Puis selon vous, est-ce que c'est mieux comme c'est à l'époque, quand il y avait des patrons pour chaque corps de crime organisé, ou c'est mieux maintenant, ou c'est un petit peu le free-for-all?
J'en ai encore régulièrement. Il était le négociateur, il éteignait les feux. La journée qu'ils l'ont extradé aux États-Unis, c'est le code Pape de la commencer. Ils sont désorganisés. Moi, j'ai pas connu ça à l'époque des gangs de rue. Gangs de rue, c'est tout désorganisé. Ça peut tirer, ils peuvent passer en voiture, puis ça prend un mitraillette, puis tirer sur un balcon. Alors que les motards, c'était quand même un peu plus structuré. Malheureusement, l'ambition de m'emboucher avec un groupe de motards, des nomades, qui ont voulu s'emparer du contenu, de contrôler toute la drogue. Alors, puis d'avoir défié le gouvernement, puis d'avoir tué des gardiens de prison, tu sais. Je suis pas prêt à dire comment m'a donné ordre de tuer gardien de prison. Même là, des fois, je me promenais avec lui. Il me demandait de laisser mon téléphone sur une aile, mon pagette dans la voiture.
Comme dans le
district 31. Puis là, il m'écrivait de quoi. Après ça, il disait, tiens, allume-toi une cigarette, puis il fallait brûler le papier.
C'est le mec, ça marchait entre Mom Boucher puis lui.
Oui, dans son cellulaire, dans le char.
Il écrivait de quoi?
Puis fume le papier après. C'est ça.
Mais il a raison, je sais, plein de gens. Hey, ça, en passant, c'est mot pour mot. C'est pas un hasard, je l'ai toujours dit. C'est la philosophie de Poirier, puis c'est la mienne aussi. Dans ce milieu-là, t'es mieux. C'est mieux d'avoir un arbitre. Vito Rizzuto l'a été longtemps, à l'époque où les gangs de rue, tout ça, étaient moins présentes, il y avait une autorité. L'anarchie, c'est pas bon dans ce milieu-là.
Pis selon Claude Poirier non plus, c'est pas bon. Puis il a raison, il dit les gangs de rue, ça n'a pas de structure. Tu tires sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Là. T'as pas d'arbitre, t'as personne qui regarde ça. Puis à l'époque, lui, il a jamais connu ça.
Bien, c'est de leur faute. Et là, ben, dit, c'est sa faute à Mom Boucher, puis ce qu'on appelait la table, les nomades autrefois, qui ont été trop ambitieux, puis ont voulu contrôler tout Montréal au complet, puis ça a provoqué la guerre, puis là, ben, c'est fini.
Bon. Alors, ensuite, Claude Poirier raconte qu'il a été victime de menaces plusieurs fois dans sa vie. Parce que le danger avec Claude Poirier, c'est qu'il dit, j'étais dans une position où je savais peut-être des fois trop d'informations sur une personne qui allait être plus tard accusée au criminel. Moi, il dit, jamais je n'ai voulu témoigner contre personne dans le cadre d'un procès, puis je me suis toujours arrangé pour ne pas que ça arrive. Mais il est arrivé une fois où il y a des gars du crime organisé qui pensaient qu'ils allaient être témoins dans un procès de quelqu'un qui les concernait. Et donc, ils ont commencé à lui faire des menaces. On a menacé de kidnapper sa fille, entre autres. Vous allez l'entendre là-dedans. Et il raconte qu'à cette époque, vu qu'il faisait l'objet de menaces, il se promenait avec un fusil sur lui.
Mais voyons.
Moi, j'ai jamais été. Quand un gars m'appelait et dit, je vais chercher pour le meurtre, j'ai tué telle personne. Mais non, arrête pas ça, compte-moi pas ça. Si tu me comptes ça, Chris, la couronne va m'embarquer dans le bois. On va être obligé de témoigner contre toi. Moi, t'es dans mal, tu m'appelles, tu vas avoir un avocat, t'as peur de te faire battre, parfait. Moi, on m'a trouvé un avocat, on m'a délivré aux autorités, on m'a resté quelques minutes. Mais moi, tu me racontes pas ton aventure.
C'est pour l'affaire de Bossu.
Marie, ils allaient au collège français à l'époque. C'est parce qu'il y a des gars qui pensaient dans le crime organisé que je t'ai pu témoigner. à Laval. Moi, j'ai jamais témoigné. Jamais témoigné contre des criminels. Jamais. J'ai eu le fameux gun de James Bond, le petit gun noir. J'ai eu un 38 Cobra. Je me suis jamais servi de ça. Mais j'ai jamais serré de mettre des menaces de mort.
Aujourd'hui, maintenant, on pourrait... J'ai
jamais
vu. C'est fini aujourd'hui.
Là. Moi, j'étais dans le bon temps.
Fait qu'il s'est, promené avec un gun une partie de sa vie.
Oui. Parce qu'il y avait des menaces.
De menacer d'enlever sa fille, hey, c'est pas des conditions faciles.
Ah non, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, c'est fini. Tu peux plus te promener avec un gun quand même que t'as des menaces. Là.
Non, je sais, mais à l'époque, c'était autre chose.
Vous avez souvent entendu parler, Claude Poirier, de parler du cas de Cédrica Provencher comme étant l'échec de sa carrière.
Oui,
c'est gros de dire ça parce qu'il y en a eu des affaires dans sa vie, Claude Poirier, puis il y en a eu des cas. Comment ça se fait que Cédrica, en particulier, ça a été l'échec de sa carrière?
C'est parce que j'étais très épicé. Dans Cédrica Provencher, là, c'était jamais vu. J'ai eu la possibilité d'avoir 100 000 $ à ma disposition pour des information qui permettrait de localiser Cédrica. J'étais 6 mois à avoir un téléphone cellulaire. Ça sonnait jour et nuit. Et j'avais dit à Martin Prudhomme, à l'époque, il était en charge des crimes contre personne, moi, si je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas avoir de la filature qui va me suivre. Alors, j'étais tellement sûr de la sortie. Alors, pour moi, c'était un échec.
Il y avait de l'argent, il y avait son sel. Oui, je me souviens, il y avait une ligne spéciale où on pouvait le rejoindre, donner des informations confidentielles, etc. Il l'a pris personnel.
Sais-tu quoi? La famille à Cédrica comptait beaucoup sur lui. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, les fois que je les ai rencontrés, ils pensaient vraiment que j'étais sauveur. Non, c'est moi qui allais sortir. Il a essayé.
Il parle d'appel jour et nuit. Ouais. T'imagines-tu, ça a dû être lourd parce que quand tu ouvres une ligne comme ça, il y a plein de gens qui appellent pour rien. Là.
Il y avait des coucous. Là. Il dit, ça sonnait jour et nuit. Là. Puis nombre de fausses informations. Il fallait gérer ça tout le temps. Là. Ensuite, bon, vous savez que l'employé a eu des problèmes de santé dans les dernières années. Même qu'on a fait le perdre là, au niveau du cœur, ça a été assez difficile. Et il a subi une opération importante au cœur, donc il y a quelques années. Puis c'est le cardiologue de Lino Zambito qui l'a opéré. Pourquoi le cardiologue de Lino Zambito? Là, il va vous raconter son épopée dans le système de santé. Ça raconte un petit peu ce qui ne fonctionne pas dans le système de santé, sincèrement. Puis à quel point avoir des contacts, ça peut t'aider à passer peut-être en avant. Il a fêté son 80e anniversaire récemment, Claude Poirier. Okay. C'est plus une jeunesse, là. Mais oui, il est venu en voiture, il conduit, il se promène droit, puis il est encore en forme, là. Alors, vous allez voir son épopée.
Il a eu des contacts pour le monde de la santé.
Écoutez bien ça, puis vous allez surtout comprendre dans cette histoire-là toute l'importance des Bruins de Boston pour Claude Poirier.
Vous êtes bloqué à 85%, au moins 4-5 contacts. Il dit, ici, ça va prendre 6 mois avant que vous soyez opéré. Si vous avez des contacts à l'Oratoire Saint-Joseph, sur la rue Bélanger, faites-les aller, ça peut vous aider. Moi, j'ai allumé l'Oratoire Saint-Joseph qui venait me parler de l'Institut de cardiologie. Je suis parti, j'ai embarqué dans mon genre. J'ai allumé 2-3 cigarettes. Téléphone, ça. Salut, Claude, il est aux amitiés. Comment ça va? Il dit, ça pourrait aller mieux. Il dit, je viens de sortir de l'hôtel Dieu, j'ai subi un examen. Tu permets-tu que je donne ton numéro de téléphone? Il dit à mon cardiologue. Le téléphone a sonné 10 minutes après. M. Poirier, c'est le cardiologue tardif. Il dit, c'est moi qui suis occupé de Lino Zambito. Il y a eu 2 comptables. Quand est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, hier, on aurait pu se voir. Il dit, venez-vous-en. Alors, je devais être opéré le vendredi matin, le premier à 7h. 7h15. 7h30. 8h moins quart. 8h. 8h15. 8h30. D'abord, je lève fumer en bas à tout le champ. Là, je suis rentré dans la salle d'opération. J'ai dit, écoutez bien, moi, j'ai un partisan des Browns depuis 40 ans. Vous m'avez parlé du Canadien. Je vous donne mon cœur entre les deux mains. Je veux savoir où je m'en allais.
Écoute, ça a l'air que les cardiologues, les chirurgiens capotaient. T'es là, on est sur le bord de vous faire des pontages. Votre vie, tu sais, je veux dire, on joue votre vie dans les prochaines minutes, puis vous pensez aux Browns de Boston en ce moment même. C'est assez incroyable. Mais ça démontre son sens de l'humour à M. Boire.
Oui. Ici. Mais ça démontre aussi, puis là, je comprends, quand on aurait tout fait pareil. Là. Avoir des contacts, tu t'en sers. Mais je pense qu'il te le raconte pour démontrer que le système ne marche pas, puis que c'est injuste. Alors qu'on y avait parlé de mois.
6 mois. Entre le moment où on dit « tu as besoin de pontage » et le moment où il se fait opérer, il s'est écoulé 3 jours.
Parce que Zambito a appelé un contact.
C'est ça.
Parce qu'il y avait son cardiologue. Puis pensez-vous que ça se fait pas, là? Pensez-vous que ça se fait pas à Québec, à matin, ça? Qu'il n'y a pas des gens dans la haute, dans les hautes sphères, dans la grande tour d'ivoire, dans la machine, en politique ou ailleurs, qui font pas ça, ben voyons donc. C'est peut-être pour ça, des fois, qu'on chiale, puis on se dit, pourquoi les dirigeants font rien? Parce que les dirigeants ne souffrent pas comme vous. Parce qu'ils sont pas dans la liste d'attente. Parce qu'avec des contacts, c'est la preuve, ça peut marcher. Il y a eu un appel 10 minutes après, Chris. Voilà, mais je le cite, là, Ellie.
Non, c'est ça. Et je veux quand même préciser que Claude Poirier a demandé, il dit là, j'espère que je passe pas en avant de gens qui sont plus mal en point que moi.
Non, souvent, ils vont faire ça en 2 rendez-vous.
C'est ça, mais il dit surtout parce que votre cas est grave, ça aurait pas été normal qu'on attende 6 mois. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, votre cas est très grave.
Il l'a eu, tant mieux pour lui.
Parler d'actualité un petit peu avec Claude Poirier. On a un recours collectif ici à Québec à la prison d'Orsainville de la part d'anciens détenus qui vont un petit peu déplorer leurs conditions de détention. On sait que Claude Poirier a beaucoup défendu les droits des détenus à certains moments dans sa carrière. Alors, qu'est-ce qu'il pense du recours collectif qui a lieu présentement à Orsainville?
pédophile.
Non, je suis d'accord que peut-être les demandes sont un peu exagérées. Il faut avoir un certain milieu. Les gens à l'hôpital, ils payent pour la télévision. Eux autres, ils l'ont gratuitement. Ils ont des bons, quand même, des bons repas. Moi, j'ai mangé quelques fruits à l'intérieur. Ça a resservi il y a plusieurs années. Moi, j'ai pas de sympathie. Des gens qui s'en prennent à des enfants, des gens qui s'en prennent à des personnes âgées. Ce sont les deux catégories de personnes dans notre société qui sont sans défense. Moi, je suis très violent de ce côté-là. Mais il faut donner une chance à la réhabilitation. Le recours collectif qu'il y a présentement, là, plus souvent qu'autrement, ça se rend pas loin.
Alors, selon lui, ça ira pas très loin, puis ils sont pas nécessairement à plein dans Saint-Ville. Moi, je suis allé souvent à cette prison-là, là. Ça se passe bien. Ils mangent bien, ils ont la télévision.
On verra que ça va donner en cours. Et... on verra que ce sera. Mais Claude Poirier, dans son passé, les a souvent défendus, les détenus, dans des causes similaires. Mais peut-être que les conditions n'étaient pas les mêmes.
Et finalement, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la sentence d'Alexandre Bissonnette? C'est quelque chose qui fait beaucoup jaser. Puis même que je l'ai rencontré avant qu'il y ait tous les appels là, par rapport à la sentence de Bissonnette. On sait maintenant que ça va peut-être être changé. Les deux parties s'en vont en appel. Vous allez comprendre qu'il fait référence, dans son opinion, à une prise d'otage qu'il a lui-même vécue dans une prison. Les détenus, à un moment donné, avait pris en otage tous les gardiens de prison, ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Et vous allez comprendre, par rapport à cette anecdote-là, pourquoi il pense qu'Alexandre Bissonnette aurait dû avoir une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans et non pas 40.
C'est les gens, là, qui auraient dû avoir 150 ans. Moi, la prise d'otage à Archambault, l'émeu, qui a été arrêté par l'avocat Michel Dhomme, cette journée-là, ces gars-là, ils avaient 25 ans. Quand tu condamnes quelqu'un à 25 ans de pénitencier avant d'être éligible à une libération conditionnelle, tu viens de tuer l'espoir. Et ces gens-là ont plus rien à perdre. Qui t'est pogné avec ça? Personnel, décision.
40 ans, c'est-tu correct?
Ah, c'est même trop.
Il aurait dû avoir 25 ans?
25 ans. Ça sera aux libérations conditionnelles à évaluer le cheminement de cette personne-là.
Je suis pas d'accord avec lui. Là-dessus, non, mais son point est bon. Tu sais, je reconnais la validité de l'argument, mais je pense qu'on peut le surmonter. C'est vrai que si tu dis à une personne, tu vas être en dedans toute ta vie. Pour les gardiens de prison, là, ils ont rien à perdre, ce monde-là. Quand même qui tuent, qui sont violents, qui commettent un autre meurtre. On vient de dire, tu vas être en dedans tout le temps. Ouais. Tu n'auras aucune chance de te sortir. C'est vrai, il arrive une prise d'otage, puis je comprends, il l'a vécu sur le terrain. Oh oui. Il y a peut-être des gens, j'ai rien à perdre.
Puis c'est des gens qui avaient rien à perdre, justement. C'est ceux-là qui nous
ont fait. Ça les rend encore plus dangereux une fois qu'ils sont en dedans. Exact. Je pense encore que, compte tenu de la gravité du crime, ça prend une sentence très sévère, parce que je pense aux victimes, tout ça. Mais je trouve que, pratico-pratique, là, sur le terrain, son point, il est très bon.
Oui, effectivement. C'est un point qu'on n'a pas entendu beaucoup en passant jusqu'à maintenant.
Il y a un autre parce qu'il y a la vision de la prison, comment ça se gère au quotidien. Il y a peut-être des gardiens de prison qui comprennent très bien ce qu'il dit, là. Ouais. C'est pas facile de gérer des gens qu'on sait qu'ils n'ont rien à perdre. Hey, merci, M. Poirier, pour l'entrevue. Alors, c'est parti. En voulez-vous d'autres? Un verre avec. C'est la même formule, on s'en va. Là, c'était à Montréal, honnêtement, parce que tu es allé le rejoindre, mais ça peut être ici, on s'en va sur la Grande Allée, on s'installe à l'Ophélia avec l'invité de votre choix, puis on jase. Ça a peut-être duré quoi, votre... Là, on vous a présenté ça,
long,
pendant
deux
une demi-heure.
Heures, peut-être,
ouais. Ah, ouais.
On a jasé un bon deux heures. Mais c'est parce que moi, j'étais content de prendre un verre avec, parce que j'aime ça. Ouais. C'est ça, il y en avait des anecdotes à raconter. Là. C'est toute une vie d'anecdotes.
Ouais, c'est quelqu'un dans le monde du sport, on va envoyer Vest. C'est quelqu'un, tu sais, on va varier un peu, là. Alors, allez-y avec vos noms.
De plein de suggestions.
25-226, avec qui vous aimeriez prendre un verre? Essayez de ne pas prendre quelqu'un qu'on voit tous les jours dans les médias.
Non, c'est ça.
C'est quelqu'un que ça fait un petit bout, qu'on n'a pas entendu, qui ne parle pas beaucoup. Vous aimeriez connaître des choses, avoir des nouvelles. 25-226 par texto.